pour rendre manifeste enfin le processus de conversion à l'intelligence pure qui commandera l'essor de la science nouvelle, Descartes fait encore appel à des exemples de géométrie, notamment dans le début si remarquable de la sixième des méditations métaphysiques. Lorsque j'imagine un triangle, je ne le conçois pas seulement comme une figure composée et comprise de trois lignes, mais outre cela, je considère ces trois lignes comme présentes par la force et l'application intérieure de mon esprit. Et c'est ce que j'appelle purement imaginer. Cette façon de penser diffère seulement de la pure intellection en ce que l'esprit, en concevant, se tourne en quelque façon vers soi-même et considère quelques-unes des idées qu'il a en soi. Mais en imaginant, il se tourne vers le corps et il considère quelque chose de conforme à l'idée qu'il a formée de soi-même ou qu'il a reçue par les sens. Si la géométrie analytique dont la découverte a ouvert l'ère de la mathématique moderne implique en effet que la représentation sensible, ou ce qui en est tiré par abstraction, fasse place aux créations de la raison pure, n'est-ce pas un paradoxe qu'en passant de la mathématique à la physique, l'esprit humain persiste dans la même attitude ? Que, pour entrer en possession de la nature, il lui suffise de regarder non au dehors mais au dedans ? Telle est pourtant l'exigence de la méthode, par quoi le cogito dont on rencontre déjà la formule chez saint Augustin est entre les mains de Descartes devenu, comme l'a dit Pascal, le principe ferme et soutenu d'une physique entière. Et il faut bien qu'il en soit ainsi du moment que le philosophe a pris le parti de refuser l'opiniâtre pétition de principe à laquelle était suspendu le réalisme de l'école. Prenons bien garde cependant. La critique qui veut que toute connaissance dérive du sujet connaissant n'a plus du tout, dans les méditations qui envisagent le moi rationnel, la signification restrictive qu'elle avait dans les essais qui se réfèrent au moi sensible. Montaigne énumère les données par lesquelles nous saisissons la pomme. Odeur et douceur, rougeur et polissure. Une fois récusée leur objectivité, la chose elle-même semble s'évanouir et s'anéantir. Descartes, à sa suite, prendra pour exemple ce morceau de cire qui vient d'être tiré de la ruche. Il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait. Il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli. Seulement, et c'est par là qu'il est Descartes, il n'arrête pas le progrès de l'analyse à la négation des apparences sensibles. Il le pousse jusqu'au point d'évidence qui devra servir de départ pour une synthèse intellectuelle de l'univers. Or cela, il n'y a que mon entendement seul qui le conçoive, non point une vision ni un attouchement ni une imagination, mais seulement une inspection de l'esprit. Intuition claire et distincte de l'étendue qui va permettre d'expliquer la nature exclusivement par des considérations de grandeur et figure, situation et mouvement. La physique cartésienne sera une promotion de la mathématique. Sans doute Démocrite avait déjà donné l'exemple de creuser par-dessous les qualités afin d'atteindre le spatial. Mais les atomes et le vide relèvent encore de l'imagination. Ils ne fournissent pas le moyen de saisir la solidarité des phénomènes universels. Montaigne raillait la fantaisie des épicuriens, que le soleil n'est non plus grand que ce que notre vue le juge. Et Descartes en tire argument pour montrer à quel point il demeurait esclave de l'expérience sensible. On dit qu'Épicure osait assurer, contre tous les raisonnements des astronomes, que le soleil n'est pas plus grand qu'il paraît. Descartes a nettement conscience que la tâche est sans précédent de créer un système du monde qui satisfasse entièrement à la vérité du mécanisme. Il s'en donne acte avec la fierté d'un gentilhomme français. « Je ne veux pas être de ces petits artisans qui ne s'emploient qu'à raccommoder les vieux ouvrages parce qu'ils se sentent incapables d'en entreprendre de nouveaux. » Les fondements sont posés à coups de génie. D'une part, l'univers est intelligible en tant que les mouvements qui le constituent demeurent en quantité constante. D'autre part, le principe d'inertie, élucidé dans sa pleine compréhension, énonce tout à la fois que chaque chose demeure en l'état qu'elle est pendant que rien ne le change et que tout corps qui se meut tend à continuer son mouvement en ligne droite. Le fait donc que les mouvements succèdent ainsi aux mouvements sans comporter d'autre cause que ces mouvements eux-mêmes, sous la condition d'une parfaite égalité entre composantes et résultantes, implique un renversement complet dans l'interprétation séculaire des rapports entre l'homme et la nature. Chez Aristote, chez les stoïciens, la physique est commandée par une biologie qui elle-même est toute pénétrée de conjectures et d'analogies, tout imprégnée d'anthropomorphisme. Plongée dans l'atmosphère de la Renaissance où règne le préjugé de la finalité, Montaigne parle presque inconsciemment de la nature comme d'un être qui aurait une vie propre, une âme, des intentions. Il attend d'elle des exemples de sagesse, une règle de conduite. Mais la nature, telle que depuis Descartes elle s'est révélée dans sa réalité vraie, est régi par les lois de la mécanique, et la connaissance de ces lois nous met en état d'adapter le cours de nos phénomènes à nos besoins et à nos désirs. Le progrès technique, qui est un des caractères essentiels de notre civilisation, est préfiguré dans la page classique du discours de la méthode. Au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce n'est pas tout. La circulation qu'Hervéus, médecin anglais, a très heureusement découverte, témoigne que la science nouvelle ne se limite pas aux fonctions du monde inorganique. La complexité du comportement chez les êtres vivants cesse d'être une objection si l'on prend garde au point où les ingénieurs italiens ont porté l'art des automates. Nous voyons, est-il noté dans le traité de l'homme, des horloges, des fontaines artificielles, des moulins et autres semblables machines qui, n'étant faites que par des hommes, ne laissent pas d'avoir la force de se mouvoir d'elles-mêmes en plusieurs diverses façons. Il n'est donc nullement invraisemblable, il répond à l'esprit de la méthode analytique, de ramener les opérations de l'instinct, qui émerveillait Montaigne, à des jeux d'automatisme. De même, si Montaigne avait toute raison d'être scandalisé que la médecine de son temps reçoive de l'opinion publique un crédit égal à celui de la géométrie, le problème se pose tout autrement pour la médecine nouvelle que Descartes se flatte de constituer sur le modèle de la mécanique, c'est-à-dire comme une géométrie appliquée. On parle, pour ne rien dire, lorsqu'on fait de la maladie une corruption de la nature, puisque la nature, en tant qu'on la personnifie et l'hypostasie, est une simple dénomination sans fondement dans la réalité. Descartes devance Claude Bernard en renversant la barrière qui séparait et qui opposait physiologie d'une part, pathologie de l'autre. Comme une horloge composée de roues et de contrepoids n'observe pas moins exactement toutes les lois de la nature lorsqu'elle est mal faite et qu'elle ne montre pas bien les heures que lorsqu'elle satisfait entièrement aux désirs de l'ouvrier, de même aussi, si je considère le corps de l'homme comme étant une machine tellement bâtie et composée d'eau, de nerfs, de muscles, de veines, de sang et de poux, qu'encore bien qu'il n'y eut en lui aucun esprit, il ne laisserait pas de se mouvoir en toutes les mêmes façons qu'il fait à présent lorsqu'il ne se met point par la direction de sa volonté, ni par conséquent par l'aide de l'esprit, mais seulement par la disposition de ses organes. Je reconnais facilement qu'il serait aussi naturel à ce corps, étant, par exemple, hydropique, de souffrir la sécheresse du gosier, qui a coutume de signifier à l'esprit le sentiment de la soif, et d'être disposé par cette sécheresse à mouvoir ses nerfs et ses autres parties en la façon qui est requise pour boire, et ainsi d'augmenter son mal et se nuire à soi-même qui lui est naturel, puisqu'il n'a aucune indisposition d'être porté à boire pour son utilité par une semblable sécheresse de gosier. L'établissement d'un tel système du monde exclut le retour au surnaturel aussi bien que l'idée d'une défaillance de la nature. Le mécanisme suffit à tout dès lors que l'heureux usage de la méthode a permis d'en scruter les bases spéculatives, d'en développer les conséquences concrètes. Il y a une partie dans les mathématiques que je nomme la science des miracles, parce qu'elle enseigne à se servir si à propos de l'art et de la lumière qu'on peut faire voir par son moyen toutes les mêmes illusions qu'on dit que les magiciens font paraître par l'aide des démons. Une physique où le mécanisme est pratiqué avec autant de rigueur et dans une semblable extension ne risque-t-elle pas de frayer la voie à la renaissance du matérialisme épicurien ? De l'animal-machine à l'homme-machine, il n'y a, semble-t-il, qu'un pas. Or ce pas, Descartes se refuse à le franchir, et ce n'est nullement par une timidité de caractère qui l'aurait empêché d'aller au bout de sa doctrine, mais tout au contraire, parce que la manière dont il introduit et justifie la vérité d'un mécanisme intégral, immanent en quelque sorte à lui-même, plonge ses racines dans une métaphysique dont on ne doit pas dire seulement qu'elle est radicalement spiritualiste, mais qui renouvelle, en la portant à un degré de pureté jusqu'alors insoupçonné, la notion de spiritualité. Sur ce point encore, nous invoquerons Pascal, témoin par excellence. Presque tous les philosophes confondent les idées des choses et parlent des choses corporelles spirituellement et des spirituels corporellement, car ils disent hardiment que les corps tendent en bas, qu'ils aspirent à leur centre, qu'ils fuient leur destruction. Quelle, la nature, a des inclinations, des sympathies, des antipathies, qui sont toutes choses qui n'appartiennent qu'aux esprits. Et en parlant des esprits, ils les considèrent comme ayant lieu et leur attribuent le mouvement d'une place à une autre, qui sont choses qui n'appartiennent qu'au corps. Presque tous les philosophes. L'exception est formulée en faveur de Descartes, qui a rompu le mauvais charme. Il a fait justice des imaginations scolastiques telles que l'horreur du vide. Et demande Pascal, qu'y a-t-il de plus bas et plus ridicule ? Descartes ne veut rien connaître que des faisceaux de relations, procédant d'une intelligence qui exerce son activité indépendamment de toute donnée sensible. La révolution cartésienne signifie que la matière rendue à elle-même par les découvertes décisives du principe d'inertie, c'est aussi l'esprit rendu à soi. Les équivoques qu'entretenaient les notions troubles d'âme végétative et d'âme sensitive disparaissent. L'âme humaine recouvre l'unité qui lui est essentielle. Elle est l'âme raisonnable dont la fonction propre est de penser. De ce point de vue, refuser une âme aux animaux, c'est simplement constater qu'il leur manque le langage sans lequel il ne saurait être question d'un développement régulier de la pensée. Si plusieurs animaux témoignent plus d'industrie que nous en quelques-unes de leurs actions, le comportement de l'instinct demeure dépourvu de l'universalité par quoi se caractérise la raison. Ainsi qu'on voit qu'une horloge, qui n'est composée que de roues et de ressorts, peut compter les heures et mesure le temps plus justement que nous avec toute notre prudence. Telle est, pour parler encore avec Pascal, la suite admirable de conséquences, aperçue par Descartes dans un seul mot, cogito, et qui prouve la distinction des natures matérielles et spirituelles.